RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules qui vous envoient à l'Europa Park. N'oubliez pas, si vous avez envie de faire un petit séjour sensation, l'Europa Park est là pour vous sans attraction. Il suffit d'envoyer Europa par SMS au 732-16. C'est un séjour de 2 jours pour 4 personnes. Tirage au sort tout à l'heure à 11h20. C'est un gagnant qui sera bien sûr avec nous. Charles Alloncle sera à 11h dans les GG, dans les grandes gueules. Charles Alloncle, c'est le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public. Charles Alloncle, beaucoup lui reprochent d'avoir transformé cette commission en une espèce de tribunal politique, puisqu'il fait partie d'une formation politique qui veut à terme la privatisation de l'audiovisuel public. Donc Charles Alloncle viendra répondre aux critiques. C'est le dernier jour de la commission d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Charles Alloncle viendra répondre aux critiques tout à l'heure dans les GG à partir de 11h. En attendant, c'est la deuxième heure des GG. De quoi va-t-on parler ? On va commencer par parler de l'école et de cette démographie d'élèves à la baisse.
J'adore.
Ce sont les projections du ministère de l'Éducation nationale. La France va perdre 15% de ses élèves d'ici 9 ans. Le monsieur le ministre, dont tout le monde se souvient du nom, monsieur
Geoffrey.
Prénom
Jefferson.
Je l'ai pas.
Edouard.
Geoffrey, les syndicats.
Monsieur Edouard Geoffrey l'annonce. 1 700 000 élèves en moins d'ici 2035. Et il parle lui-même de vagues sismiques.
Oui, 1 700 000, c'est pas rien. C'est-à-dire, par exemple, dans le seul premier degré, c'est 933 000 élèves en moins. C'est là où la baisse sera la plus importante. Dans le premier degré, c'est maternelle et primaire. Alors, il va falloir bien sûr s'adapter. Et alors, je disais, Geoffrey, les syndicats, parce que bien sûr, les syndicats commencent à s'inquiéter. Non, ne supprimez pas nos postes. Oui, alors pourtant, il y a une fenêtre de tir. Il y a 300 000 professeurs qui vont partir à la retraite d'ici 2030. Oui. Alors, est-ce qu'on en profite pour faire des économies ? Je rappelle que le budget éducation nationale, c'est le premier budget de la France, puisqu'il va falloir adapter quand même le nombre d'enseignants au nombre de profs. Eh bien non, les syndicats nous expliquent qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas que ça soit mathématique. Profitons pour faire des classes avec moins d'élèves par classe. Et donc, d'ailleurs, ça a commencé. Dans le budget qui était prévu au départ de M. Lecornu, il y avait pas mal de suppressions d'emplois, de postes. Et bien, finalement, ils ont réduit. Il n'y a que 4000 suppressions de postes d'enseignants pour la rentrée 2026, ce qui n'est rien. Je rappelle qu'il y a plus d'un million de personnes qui travaillent dans l'éducation nationale, dont 850 000 postes. Alors, est-ce que c'est une...
Est-ce que
c'est une bonne nouvelle pour faire des économies, ou est-ce qu'au contraire, ça montre aussi qu'il y a une baisse de la natalité et que c'est inquiétant et qu'il va falloir quand même à un moment donné trouver des solutions?
Alors, supprimer des postes de professeurs, est-ce que c'est inévitable? 32-16 pour le dire au GG, madame la prof.
Alors, ce n'est pas inévitable, inévitable, c'est un choix politique. Donc voilà, on est à un moment de choix.
Budgétaire.
Donc, très rationnellement, on a le choix, soit entre des économies, voilà, on se dit, on va moins d'enfants, on va en profiter pour faire des économies sur l'éducation nationale, ou alors investir et régler des problèmes. Moi, je suis plutôt dans la deuxième solution. Je vous dis quels problèmes on pourrait régler. Un, on nous parle de harcèlement scolaire. D'accord? Pour régler le harcèlement scolaire, il faut les premiers à voir quand il y a harcèlement, c'est le professeur, et pour voir, c'est les signaux faibles. Pour vraiment agir, il faut agir très vite. Les signaux faibles, j'arrive plus à les voir dans une classe où, voilà, ils sont pas 30. Quand ils sont 20, 21, 22, j'arrive à voir vraiment le début. Le petit prénom du père qui est murmuré, les petits regards, on arrive à les voir plus facilement. Donc, sur le harcèlement, pour les signaux faibles. Pour prendre en compte les élèves à besoins spécifiques, c'est quoi ces élèves-là? Donc, des deux côtés. Aussi bien si votre enfant est HPI, au potentiel intellectuel, ou si votre enfant est 10, tous les 10. 10 graphiques, 10, il y en a plein.
Disgracieux.
10, non, pas disgracieux.
1 700 000 élèves en moins.
Attends, je dis ce truc-là. Toutes ces choses-là, quand j'ai un élève
c'est
qui
parce
est.
Que vous êtes pas ou assez alors, tout,
non, je dis pas ça. Je dis, non, caricature pas.
Ah, c'est bien
ou TDAH, ou les élèves qui sont TDAH, effectivement, ils prennent plus d'énergie. C'est comme au Scrabble. Élève compte double. Ça veut dire qu'effectivement, quand j'étais. Moi, j'ai eu la chance de commencer au lycée. J'avais des lycéens, le samedi matin, 3 heures de suite, et ils étaient 30.
D'accord.
Vraiment, je crois que j'ai jamais collé personne. J'ai dû dire, tais-toi. J'avais pas. Mais après, je suis arrivée en cinquième, dans une zone plus compliquée, et je peux vous assurer que c'était pas
donc
le
c'est
même
pas
métier.
C'est la zone compliquée,
et que c'était aussi l'âge. Ouais. Ça veut dire qu'un enfant à 12 ans, c'est pas pareil qu'à 15 ans. Le cerveau. Regardez vos enfants chez vous. Si vous avez un petit garçon qui a 12 ans et que vous étiez en train de lui courir après, alors qu'à 15 ans, c'est la même personne.
Est-ce qu'on peut revenir au sujet?
C'est le sujet.
Mais
c'est le sujet.
Non, tu nous parles d'enfants de terrain.
Je vous parle du terrain.
Il y en aura moins, puisqu'il y aura 1 700 000 en moins, il y aura aussi moins d'élèves à problème mathématiquement.
Moi, je vous dis simplement que pour bien faire mon métier en tant que professeur, je peux m'inventer. Il n'y a pas de professeur qui arrive avec sa
carte. 3-4 profs dans une classe maintenant ?
Non, pas du tout. Moi, toute seule, avec l'occasion d'avoir des élèves moins chargés. Eux-mêmes l'ont dit. Ça veut dire que quand ils ont fait le test à l'ECP, dédoublement de classe, ils ont dit c'est fou.
Alors, Antoine,
les élèves lisent mieux,
les élèves apprennent mieux, et
donc du coup, ils découvraient ce qu'on leur disait depuis toujours. Donc écoutez-moi, les enfants, c'est des sardines, c'est des enfants, et donc je parle.
Donc on touche à rien.
Écoutez,
Fatima, il faut faire le maximum pour l'éducation.
La même qui demandait des baisses sur le carburant, c'est ça.
Je fais du pragmatique.
Il faut faire le maximum pour l'éducation. Prof est un très beau métier. Bravo, merci à tous. Je fais attention à ce que je dis. Mais
il y a une crise des vocations.
Pardon.
Ça va régler le problème.
Le nombre d'enfants baisse. Il faut baisser le nombre de profs, c'est logique.
Parce qu'on avait des classes déjà surchargées, donc ça peut régler
ça.
Et il y avait plein de problèmes.
Aujourd'hui, avec 850 000 enseignants, j'ai refait le calcul avec le nombre d'enfants en âge d'être scolarisés. Il y a un enseignant pour 13 enfants dans notre pays.
Mais tu vois bien qu'on ne peut pas faire des moyennes, puisqu'ils ne sont pas répartis de la même manière sur
Il y a plein d'absentéisme,
il y a les journées pédagogiques et tout ça.
Et donc, aujourd'hui, clairement, profitons, si on peut dire, c'est pas le bon terme, mais puisqu'il y a une baisse du nombre d'enfants, nous devons dégraisser le mammouth. C'est un ministre socialiste qui l'avait dit.
On peut le dégraisser de plein de manières. Il y a des dépenses de logiciels.
Et il y a aussi 350 000 agents non enseignants au sein de l'éducation nationale qui sont de trop aussi. Mais si l'éducation nationale n'est pas en mesure de se réformer maintenant, alors qu'avec toute la dépense, la France est 23e au classement PISA, si l'éducation nationale n'est pas en mesure de se réformer, mais maintenant, elle ne le sera jamais.
Moi, je vous dis, vous êtes les premiers à
aimer le métier, aimer l'éducation nationale, c'est dire.
Moi, d'ailleurs, mieux payer les profs,
c'est dire. Non, mais c'est pas
la question.
Payer
moins de profs et je l'ai payé.
J'ai envie d'être mieux payé avec plus d'enfants qui souffrent.
Pour répondre,
on peut avoir des enfants qui sont en situation de handicap. On te dit de t'en occuper, tu t'en occupes, tu peux pas t'en occuper bien.
J'essaie de répondre là-dessus.
Les enfants de la classe souffrent. Le professeur souffre. Les éditorialistes vont dire sans avoir vu ce type d'enfants, même violent, et ils vont dire ils font mal leur travail.
Mais après,
on s'étonne que les gens soient en burn-out. C'est pas possible. Écoutez.
La réponse à ce que tu dis, ce sont les classes de niveau. Tabou français. Il y a des enfants 10, machin, etc. On fait une classe de 10 pour les 10. Il y a des enfants avec des gros potentiels, on fait une classe de 30 pour ceux qui ont une classe
de 10. C'est pas du tout la tendance. On est dans l'inclusion sans moyens.
Et donc,
il y a une exclusion.
Moi, je te propose de profiter de la situation, de la démographie, pour réformer tout ça.
Avec les mêmes débats sur les mêmes plateaux, où on va dire les mêmes choses et on va regretter, on sacrifie les mêmes enfants.
Le problème d'éducation, c'est pas une question de
nombre
de
profs.
Le niveau des élèves n'est pas lié au nombre de profs.
Mal est dans le paradoxe français, c'est que on préfère tous que les économies et les réformes elles se fassent chez les autres et puis pas trop.
Ah non, moi je suis pour enfants.
Et je pense qu'aujourd'hui, moins 1 700 000 élèves, il y a moyen de régler des problèmes qui existent à l'éducation nationale, entre autres tous les profs pas remplacés, des profs qui sont en formation en même temps qu'ils devraient être en cours, enfin tous ces témoignages qu'on a eu ici, et il y a aussi moyen dans les 300 000 qui partent en retraite qu'il y en ait une proportion qui soit pas remplacée pour faire des économies. Je pense qu'avec 1 700 000 élèves en moins, il y a moyen de faire les deux. Voilà, ça avec... c'est mon avis, mais je suis pas
vous
expert.
Vous vous rappelez quand il y a
de mieux payer les profs.
Vous vous rappelez
et de
la...
mieux payer les profs.
On a un directeur d'école avec
vous. Vous rappelez la crise des vocations.
Je serais plus pour mieux payer les profs.
Regardez, bien payés.
Plutôt qu'ils
regardez,
travaillent moins.
Crise des vocations où il y avait tellement pas de profs qu'on allait chercher un peu n'importe qui. Ah bah après on va nous dire ah il y a n'importe qui et la pédocriminalité.
Parce que t'as raison, parce qu'on les met dans les mauvaises conditions.
Vous vous rendez compte ?
On est d'accord.
Alors qu'avoir des gens qui ont leur concours, qui sont
où, voient leur casier judiciaire,
c'est ça qu'il faut.
C'est pas une paille 1 700 000 élèves.
Tais-moi des profs.
Parce que moi je crois qu'on va avoir encore moins de scrupules à fermer les petites écoles rurales que de remettre du monde dans les ZEB. Quoi.
Enfin, c'est pas vrai parce que c'est
on la
Paris, dans les grandes villes, ça ferme aussi.
Regarde la carte. Moi, j'ai pris la carte de Bourgogne et je peux dire qu'il en ferme beaucoup plus en zone rurale qu'en milieu périurbain.
Vive ce maire qui a inscrit 3 vaches. Il y a un maire qui a inscrit 3 vaches pour que l'école ferme pas. Vive ce genre de personnes. Fermer une école dans les coins. Moi, je viens de la campagne.
Des gamins de 7 ans, tu les fais le vaciller.
On va aller à l'école. On va aller en Vendée.
Que les Français fassent plus d'enfants. Moi, j'adore, c'est paradoxe. C'est-à-dire que les mêmes qui pleurent la fermeture des classes ne veulent plus faire d'enfants.
Moi, j'ai des solutions, mais Marie n'aime pas trop.
C'est tellement compliqué d'avoir des enfants. Et on revient à ce que disait Marine Tondelier.
On caricature les gens.
C'est compliqué de faire des enfants. Donc, alors, les gens ne veulent plus faire d'enfants. Mais alors, il faudrait maintenir le nombre de classes partout. Il faudrait le même nombre de profs. Tout ça est lié. Je suis désolé. Faites des mots, mais vous verrez, les classes resteront ouvertes.
Désolé. Moi, je les aime.
Le reste, c'est que du blabla.
J'aime ces gens qui réfléchissent. Voilà. Moi, ce que j'aime pas, c'est des gens qui vont pondre des enfants sans penser aux conséquences.
Oui, bien
donc,
sûr.
Effectivement, mais alors
comment
faisaient
nos parents, nos grands-parents, ils se posaient moins la tête.
Écoute, moi, ceux qui posent problème, c'est ceux qui font des enfants sans justement se poser est-ce que j'ai les moyens de m'en occuper. Donc, les gens qui réfléchissent un peu avant de faire des enfants, gloire à ces personnes-là.
Des gens égoïstes qui pensent avant tout à leur petit bonheur.
Pas forcément.
Pas forcément. Mon petit bonheur.
Non, il y a des gens qui disent est-ce que j'ai le moyen de le nourrir. Est-ce que mettre au monde un enfant, c'est mettre au monde une responsabilité. Bravo à ces gens qui réfléchissent.
Ceux qui ont connu la guerre, etc., ils avaient un peu plus de courage que nos générations.
On va aller en Vendée.
C'est pas une question
de
courage. C'est très courageux de se dire que mettre au monde un enfant, c'est l'accompagner jusqu'à ce qu'il soit grand et que c'est toute ta vie qui change.
Oui.
C'est très courageux.
Mais à force de se poser des questions, on ne fait rien.
À la place
d'en
vouloir 5, je suis désolée.
À force de se poser des questions, on ne fait pas d'enfants et on se dit, ça je ne comprends pas, on ferme les classes.
Alors, on va en Vendée retrouver un directeur d'école.
Moi, je suis contre les fermetures de classes.
On va en Vendée retrouver un directeur d'école primaire. C'est Romain qui est avec nous. Ensuite, on sera du côté de la Loire Atlantique avec un directeur de collège.
Partout, là.
Romain, bonjour.
Oui, bonjour à tout le monde.
Bon, donc il y a cette donnée qui est factuelle, a priori. 1 700 000 élèves en moins en 2035. Est-ce que c'est inévitable pour vous de fermer des classes, alors, dites-moi.
Pour moi, non. Parce que on est déjà. Le problème, c'est que l'analyse, elle est uniquement théorique.
C'est
et
ça.
Elle est uniquement mathématique. Il y a un moment donné, il y a des chiffres aussi dont on parle peu. C'est le nombre, le taux d'encadrement. Et on fait partie des pays qui ont un taux d'encadrement, un nombre d'élèves par prof qui est parmi les plus élevés en Europe. Et je pense que ce serait une bonne occasion justement de réussir à réduire ce taux d'encadrement. Il y a une donnée qui est majeure. On parle souvent de l'écroulement du système, de l'écroulement du niveau de l'éducation nationale. Il y a une chose qui n'est jamais, il y a une réforme qui n'a jamais été menée, c'est de baisser drastiquement le nombre d'élèves par classe. Et je pense que réellement aujourd'hui, c'est la meilleure occasion de pouvoir enfin le faire. Il y a une autre
c'est
chose,
une
si je peux continuer.
La
dernière chose, c'est que très souvent, on fait encore une fois une analyse mathématique. On prend le nombre d'élèves, le nombre de profs, et on fait une division toute simple. J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu et qu'on se dise que le nombre de profs, on le considère comme étant uniquement des temps pleins. Il y a énormément de temps partiel également, donc cette division qui paraît très simpliste, elle fausse totalement la vision.
Mais
donc,
ça veut dire, mais Romain, il y a une question que je voudrais vous, ramener votre premier point sur l'encadrement. Oui. Moi, je suis maintenant bientôt un vieux monsieur, j'ai 50 ans passé.
Oui.
J'ai jamais été dans des classes de 30. Par contre, on allait à la piscine à pied, on était 25 dans la classe, il y avait la maîtresse et c'est tout, quoi. Et il y a personne qui mouvetait sur le trottoir et on allait à 25 à la piscine à pied. Maintenant, pour traverser la rue, il faut 6 adultes avec 2 enfants, quoi. Je veux dire, on vit dans les normes de la France et de l'éducation nationale aussi, quoi.
Oui, mais Didier, vous prêchez.
C'est pas nous, ça.
Allez-y, Romain.
Oui.
Avec vous, moi je suis directeur d'une école rurale. Alors effectivement, j'ai pas 30 élèves. Par contre, pendant une époque, j'en ai.
On a perdu.
Cette année, j'en ai 23.
Le problème, c'est les zones blanches.
Et j'ai 3 niveaux.
Oui, mais autour de l'encadrement, on a créé des normes et des choses qui n'existaient pas il y a 30 ans.
Attends, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes ce que c'est avoir 3 niveaux? Parce que les gens connaissent pas forcément.
Ah oui.
Ça a toujours existé, ça.
Bah, on a perdu Romain, dommage. Dans un instant, on sera avec Mathieu. Mathieu,
allez, il vit au milieu.
Attends, on va prendre Mathieu tout de suite. On va prendre Mathieu tout de suite. Mathieu, directeur de collège en Loire-Atlantique à Saint-Lifard. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour à tous.
Mathieu, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce qu'inévitablement, on va avoir moins de classes du coup?
Bah, mon collègue en parlait précédemment, la question de la désertification rurale, de la baisse du nombre d'élèves, c'est réel, on le voit au quotidien, même dans des départements qui, comme le mien, sont plutôt attractifs. Après, pour moi, aujourd'hui, c'est moins la question du nombre d'élèves par classe que de l'encadrement qu'on propose aux élèves. Fatima en parlait très très bien tout à l'heure. La question des élèves à besoins éducatifs particuliers, elle est centrale aujourd'hui, hein, depuis la loi, alors je ne me souviens plus exactement de l'année, mais la loi sur l'inclusion scolaire. On a des élèves avec des besoins éducatifs particuliers de plus en plus importants, et on a des besoins qui sont nouveaux et qui sont plus forcément aujourd'hui des besoins d'enseignement, mais plutôt des besoins d'accompagnement type AESH, voire parfois même pour certaines situations d'éducateurs spécialisés. Alors moi, je dirige un établissement dans l'enseignement privé. Je vous laisse imaginer que les moyens dont je dispose sont pas exactement les mêmes que ceux de l'enseignement public.
Combien d'enfants par classe, vous ?
Ça dépend des niveaux, mais on peut monter à 28 peut-être, quelque chose comme ça. Donc ce qui est tout à fait raisonnable. Ce qui est tout à fait raisonnable. Après, quand je parlais de désertification et du baisse de nombre d'élèves, on perd des classes tous les ans. Donc voilà, ça c'est une réalité, mais c'est moins le nombre d'élèves par classe que la qualité de l'accompagnement, et en particulier pour ces élèves-là. Fatima le disait aussi tout à l'heure, et je la rejoins vraiment là-dessus. La question, voilà, c'est l'élève qui compte double, quoi. C'est l'élève qui compte double, c'est l'élève qui demande deux fois plus d'énergie que.
Il y en a toujours eu.
Que les 27
ans. Il y en a plus.
Ils n'étaient pas dans l'éducation nationale.
Il y en a plus qu'à 16 ans. Il y a des élèves que t'as. Non, parce qu'avant, il y avait l'éducation spéciale. Il y a des élèves qui n'étaient pas dans les classes. On a fait la technique de l'inclusion. Donc, il y a des enfants qui ont besoin d'un accompagnement presque psy. Et qu'on a dans nos classes, il y a des enfants.
Il n'y était pas il y a 20 ans.
Il n'y était pas il y a 20 ans.
Ouais, ça c'est vrai. Mais
c'est oui, d'accord. Donc on a l'impression maintenant que tous les élèves sont des problèmes.
Je suis un des débats qu'on avait. Ça c'est les syndicats et c'est les parents qui demandaient à ce que les élèves soient mis dans ces classes. Et quand tu disais non parce que ce sont des élèves à part dont il faut prendre soin dans des
mais l'inclusion.
On était dans l'inclusion.
Ah ben là c'est une inclusion sans moyens.
Ça fonctionne pas l'inclusion.
C'est pour ça que je vous dis
l'inclusion c'est une erreur.
Alors Mathieu des problèmes. Mathieu on va continuer.
Ça n'est plus pour personne.
On va continuer la discussion et je remercie Mathieu d'avoir été avec nous. On a Priscilla qui est formatrice dans le handicap, qui sera avec nous, elle est dans le Gers.
Super.
On aura un professeur des écoles, Olivier, aussi du côté de la Seine-Saint-Denis. 1 700 000 élèves en moins d'ici 2035, c'est demain. Allez, je vous le vends après-demain, même si vous voulez. Mais ça va quand même venir vite. Est-ce que l'école doit s'adapter?
Ce que je comprends, c'est que les profs vont se battre pour être seuls dans leur classe sans élèves. C'est assez curieux.
Est-ce que l'école doit s'adapter?
C'est j'entends, là. Ils sont tous en train de se mobiliser 32-16.
Inévitablement.
Parce que je suis seule avec vous quatre.
Inévitablement.
Merci.
Il y aura moins de profs et donc moins de classes. 32-16.
C'est cool, d'être seul.
Pour continuer d'en parler avec les GG.
RMC.
Alain Marchal. Olivier Truchot.
Les Grandes Gueules. 1, 2, 3, 4.
Vous avez le 32-16 à votre disposition, il est 10h25, pour continuer de discuter avec nous de cette perspective scolaire, c'est-à-dire la baisse de la démographie, et c'est assez factuel, on fait moins d'enfants en France, fait qu'il y a une perspective de diminution de 1 500 000 élèves dans les classes en 2035. Du coup, le ministre de l'Éducation nationale parle d'une vague sismique qui va nécessiter, c'est ce qu'il dit, de repenser l'offre scolaire à long terme. Donc Priscilla est avec nous. Bonjour Priscilla du Gers.
Oui, bonjour.
Bonjour, qu'est-ce que vous en dites? Alors, est-ce que, du coup, supprimer des profs, fermer des classes, c'est inévitable?
Alors, je pense effectivement que c'est inévitable. Là-dessus, moi, je n'ai pas de questionnement. C'est inévitable, très bien. Simplement, avant de penser à supprimer des postes, je voudrais qu'on regarde un peu le fonctionnement de l'éducation nationale. Actuellement, la France est montrée du doigt pour avoir des élèves qui ont un niveau pédagogique en mathématiques, en lecture, en français, plutôt dans les moins bons d'Europe. nous avons de plus en plus d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Alors non, il y a 20 ans, il y en avait, mais c'était pas du tout les mêmes besoins. Et en termes de quantité, on n'était pas du tout au même niveau.
Mais est-ce que c'est vraiment lié au nombre de professeurs? Parce que ça, c'est un réflexe, pardon, syndical et d'une partie de la classe politique de dire si ça fonctionne mal, si les élèves n'ont pas le même niveau qu'avant, c'est parce que il y a pas assez de monde. Et donc, on embauche des profs, etc. Ce qu'avait fait François Hollande et autres.
Il y a trop de monde par classe.
Pardon, mais quand vous voyez les autres modèles, le taux d'encadrement, alors certes, on est un petit peu au-dessus de la moyenne européenne, mais enfin, c'est en général, c'est 20 élèves par classe. Je crois qu'on est à 21 en moyenne par classe, nous, de mémoire en France. Donc, on voit bien que c'est pas ça le fond du problème. C'est-à-dire, regardons les pays qui sont en tête des classements PISA, notamment les pays asiatiques. Ils se battent pas sur le nombre de profs, mais c'est sur les méthodes, c'est sur les rythmes scolaires, c'est sur ce qu'on veut faire apprendre à nos mômes et l'exigence aussi de niveau.
Allez-y, Priscilla.
On a peut-être un peu perdu.
Alors, non. Alors, il faut arrêter de parler d'exigence et de niveau, etc. En fait, vous êtes en train de parler de votre expérience de l'école.
Non, je parle de mon expérience de parents d'élèves.
Mais laisse-la
oui,
finir.
Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez pénible d'être coupé tout le temps. Il se trouve que j'ai enseigné pendant 12 ans. J'ai dirigé un collège. Je suis également maman d'enfants en bas âge, dont un en situation de handicap, avec trouble du spectre de l'autisme. Oui. Et maintenant, je suis reconvertie, je travaille dans le handicap.
D'accord.
J'ai connu toutes ces problématiques d'élèves à besoins particuliers en classe.
C'est pas la majorité des élèves, quand même. Vous êtes d'accord?
Laissez-moi terminer.
Oui.
Merci. J'ai connu des classes à 30, des classes à 20 ou 25. Je dis pas qu'il faut pas revoir les effectifs des enseignants, puisqu'on va perdre 1 700 000 élèves. Je dis juste que, en fait, est-ce que ça pourrait pas être l'occasion de repenser un système qui ne fonctionne pas, de revoir le rythme scolaire et arrêter de comparer les pays asiatiques avec la France, soit des pays européens? On n'est pas du tout dans la même
situation. Mais il y a des pays européens qui s'en sortent beaucoup mieux que nous.
Ils font je ne sais pas combien d'heures par semaine, etc. C'est des fous furieux du boulot. En France, on n'est pas comme ça.
C'est un problème. L'éducation nationale, on ne soit pas des fous furieux du boulot, vous venez de le dire.
Laissez-moi terminer. Ouais. Effectivement, on ne peut pas demander à des élèves asiatiques et des élèves français d'être les mêmes en classe.
Mais on ne peut pas régler les problèmes d'éducation nationale.
Laissez-moi terminer.
Oui, c'est un débat, Priscilla.
Les pays européens qui s'en sortent bien sont des pays européens qui n'ont pas du tout le même fonctionnement éducatif et d'encadrement.
Peut-être on devrait s'en inspirer alors.
Pas tout, mais moi j'aimerais qu'on en profite aussi pour former les enseignants davantage au nouveau public.
Mais là, on peut pas mettre en place une éducation nationale uniquement sur le prisme des enfants à problème, parce que sinon on s'en sort pas. Il y a bien sûr les enfants autistes, etc. Mais enfin, c'est pas la majorité des enfants. Il faut un système qui fonctionne pour la globalité de nos enfants.
Mais Olivier, ce que tu négliges, c'est qu'aujourd'hui, il faut
des classes de niveau.
Les parents ont changé. On a beaucoup de parents qui, même si leurs enfants n'ont pas de problème, ont envie que leur enfant soit pris dans son individualité. On est dans une société de l'individu.
Dans le privé pour ça.
Donc on a vraiment des parents qui demandent ça, qui veulent que leur enfant soit vu, qu'il n'y ait plus d'enfants transparents. Et si on veut que tous les enfants soient vus par l'enseignant, notamment même pour l'oral, on nous dit qu'il n'y a pas assez d'oral en classe, mais pour faire passer tout le monde à l'oral, pour entendre la voix de tous les enfants de la classe, effectivement, quand tu as 25 élèves, c'est pas pareil que quand on a 30. Et tu peux tous les entendre quand on a 25. Moi, j'ai entendu la voix de tous mes élèves. Et Corée du Sud, moi je veux bien si tu veux Corée du Sud, mais après je veux pas les parents. Moi si j'envoie, je leur dis lisez, je vais avoir 10 parents qui vont me dire
oui, les parents tu les remets à leur place, les parents ils font trop dans l'école.
Vous les mettez, vous leur donnez trop de travail.
Vous avez parlé de la Corée du Sud, les chiffres officiels du ministère de l'éducation nationale sud-coréen. Moyenne des enfants par classe en maternelle, 16. En école primaire, 20. Au collège, 24 enfants, en lycée, 22 enfants. Voilà. Moyenne.
Il y a beaucoup d'écart avec nous.
Chiffre ministère.
Non, en moyenne, c'est 21.
De l'éducation nationale.
Ça ne veut rien dire.
La moyenne des enfants, je répète, maternelle 16, école primaire 20, collège
nous,
24, lycée 20. Alors c'est 22-9 en lycée, c'est-à-dire quasiment 23 ans. On a Olivier qui est prof des écoles.
Elle veut pas dire grand-chose.
Du côté de la Seine-Saint-Denis.
Non mais je veux dire si j'ai des élèves.
Fatima, je voudrais qu'on écoute Olivier.
Après Priscilla. On en parlera après.
Olivier qui est prof des écoles. Bonjour Olivier.
Bonjour les grandes gueules. Bonjour.
Vous avez une classe de CE2. Qu'est-ce que vous pensez de cette baisse démographique annoncée? Ça pousse à quoi selon vous? Dites-moi.
Moi, je dirais, alors je vais rejoindre mes collègues. Pour moi, il ne faut pas supprimer les postes, en fait. J'aimerais avoir moins d'élèves dans ma classe. Il y a une classe dans de mon école, ils sont 32. Moi, j'en ai 27. Si je pouvais en avoir 20, ce serait déjà très bien. Parce que ça, je pourrais mieux gérer, justement, on parlait d'oral. Fatima parlait d'oral. Par rapport à l'oral, à la poésie ou autre. Moi, l'inclusion, je suis pour l'inclusion. J'ai une élève qui est dyslexique. Elle est passée du premier trimestre à 11 de moyenne. Elle est passée à 15 de moyenne au second trimestre. Donc, en fait, quand elle est incluse dans la classe, elle est motivée. On fait du tutorat et ainsi de suite. Avoir moins d'élèves, on peut aussi voir justement, Fatima en parlait par rapport aux violences faites aux enfants. Dans une classe, il y a au moins un élève qui a des violences, là le harcèlement ou des violences sexuelles.
Sexuelles aussi. Ouais.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut aussi voir, parce qu'on est aux proches des enfants. Moi, dans le 93, c'est compliqué. Après, j'entends dans le rural, il y a moins d'élèves, etc. Justement, j'ai un collègue, lui, c'est là où j'avais fait mon stage à une époque. Il est dans le 93. Il avait une triple section. Il avait 18 élèves dans sa classe. Une classe qui faisait du CE2 au CM2. Et ça se passait très bien. Après, il avait une pédagogie, voilà. Mais quand vous avez fait la comparaison avec la Corée, je crois, etc., 16 élèves en maternelle.
Oui, c'est ça.
Nous, en maternelle, c'est pas 16 élèves. C'est 20, 25, 30.
Oui, c'est un peu plus.
Et juste pour ajouter quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas compris. Quand on demande moins d'élèves dans la classe, on a l'impression qu'on dit on veut moins travailler. Mais c'est pas pour moins travailler. C'est vraiment pour pouvoir. Ouais, c'est pour travailler mieux. Oui. Je vais vous donner un exemple. Je suis moins bonne prof. Je vous dis, cette année, je suis une plus mauvaise prof que l'année dernière. Qu'est-ce qui a changé entre cette année et l'année dernière? L'année dernière, j'avais un établissement. Cette année, je suis sur deux établissements. De fait, je suis une plus mauvaise prof cette année. Pourquoi? Qu'est-ce qui change? L'année dernière, quand j'étais dans le même établissement, entre midi et 2h, quand un élève voulait me parler, je restais avec lui, je les prenais, on faisait des clubs, j'avais le temps de faire ça parce que j'étais sur place. Maintenant, entre mes midi et 2, je change d'établissement. Donc, je ne peux pas parler aux élèves. Je suis une plus mauvaise prof. Moi, j'en souffre parce qu'il y a plein de situations que j'ai pu voir en avance l'année dernière. Je peux pas les voir en avance cette année. Donc, voyez, quand on parle de précarité de l'enseignant, là, par exemple, moi, sur deux établissements, c'est aussi la souffrance de mal faire son boulot. Moi, je me sens très proche des infirmières qui disent, voyez, pour les personnes âgées, quand on dit on est moins dans le couloir, ben c'est juste que une personne que tu dois changer sa protection, tu vas le faire super vite à la place d'être dans le soin et dans l'humain. Et moi, je me sens très proche des infirmières.
Vous
voyez, humainement, pouvoir bien faire son boulot.
Merci à Olivier, le professeur des écoles, d'avoir été avec nous, Olivier de Saint-Ministre.
On bougera tout, justement.
On a posé la question, moins d'élèves d'ici 2035. Est-ce qu'inévitablement, il faudra supprimer des profs? Est-ce qu'il y aura des suppressions? Vous dites oui, ça paraît inévitable à 67%. À suivre maintenant dans les GG, les conseils qui ont été donnés aux supporters de Liverpool qui viennent à Paris pour affronter le Paris Saint-Germain, pour voir leur équipe affronter le Paris Saint-Germain. On leur a envoyé un petit guide. Dans le guide, on leur dit d'éviter les quartiers comme la Gare du Nord, le quartier de Pigalle, le secteur du Châtelet. Attention au vol, attention au pickpocket. C'est bien le guide de Paris qu'on envoie aux supporters de Liverpool. Il est 11h25. Vous voulez en parler? Il y a le 32-16 à votre disposition.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
Les GG, les grandes gueules. Fatima Hidbounoua, professeur de français. Antoine Diers, consultant juridique. Didier Giraud, agriculteur en Saône-et-Loire, dans la région parisienne. Dunkerque et la Saône-et-Loire qui sont représentés. Enfin, les Hauts-de-France. La Saône-et-Loire qui sont présentés aujourd'hui. Si vous avez raté le début de l'émission, vous avez les podcasts à votre disposition. Et dans les podcasts, vous avez toutes les discussions. Et puis les petits à côté, les discussions qu'on peut avoir pendant la pub. Alors là, il y a une discussion sur Céline Dion. Qui peut avoir des places? Qui s'est inscrit? C'est l'émeute. On est sous pression d'une partie de la logistique de l'émission, de la production de l'émission pour obtenir des places. Anne-Laure de Rivière, l'ami Anaïs Sainz, Fatima, qui pousse pour que tout le monde essaie d'avoir Estelle des places de Céline Dion. Comment?
Estelle Denis, je crois.
Il y a Estelle aussi.
Didier aussi veut y aller.
J'ai ma place, moi j'ai été tiré au sort. Moi.
Il était en train de chanter tout à l'heure.
Ouais.
Il était là.
Ça, la discussion, vous la retrouvez avec Fatima qui chante du Céline Dion. Ça, c'est dans les podcasts. Parlons de la Ligue des Champions et des conseils donnés aux supporters de Liverpool.
C'est ça.
Et c'est trop. C'est ça.
C'est le You Never Walk Alone qui est chanté à chaque fois qu'il y a match à Anfield Road à Liverpool. Alors c'est le quart de finale aller de la Ligue des Champions, sauf que ça ne se passe pas à Anfield, ça se passe au Parc des Princes. Et les supporters de Liverpool, qui seront un peu plus de 3000 à venir, ils ont reçu des conseils.
Bah, nos amis anglais ont un souvenir quand même douloureux de cette finale perdue de la Ligue des Champions. C'est en 2022 au Stade de France, vous vous souvenez de ces images terribles où les supporters de Liverpool anglais, qui étaient venus parfois en famille, se sont fait carrément vandaliser par des bandes de jeunes, alors on peut les appeler racailles, je sais pas, qui sont venus des voyous. En profiter. Et à l'époque, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait accusé les Anglais d'être responsables de leur propre agression, en gros. C'était eux.
Ils ont payé leur
Darmanin,
réputation.
Depuis, s'est excusé officiellement auprès des Anglais, parce que ça avait été très loin, cette histoire. On les avait quand même très, très mal accueillis. Alors, c'est sûr que maintenant, les Anglais, les supporters de Liverpool, lorsqu'ils viennent à Paris, ils font gaffe. Ils suivent notamment les recommandations. Alors, c'est quoi les recommandations? Eh bien, c'est carrément d'éviter certains quartiers parisiens, notamment la gare du Nord, parce que, alors, pourtant, ils vont venir.
Ils arrivent à la gare du Nord, mais il faut qu'ils évitent. Alors, ça va être quelque chose.
Ne pas rester aux abords de la gare du Nord, ne pas aller à Pigalle, éviter le centre, éviter Châtelet. Il est conseillé aux supporters d'emprunter la ligne 9 du métro jusqu'à la station Porte de Saint-Cloud, là où aura lieu le match au Parc des Princes. N'empruntez surtout pas la ligne 10 du métro, car elle est réservée aux ultras du PSG. Donc il y a carrément des lignes interdite et réservée. Donc, la ligne 9, c'est pour les Anglais. La 10, c'est pour les supporters parisiens. On en est là. Est-ce que Paris est devenu craignos?
Antoine, moi je me lance, mais en fait tout le monde sait qu'il faut éviter la gare du Nord quand t'es français. Évidemment,
tu connais bien.
Ben oui, moi qui arrive du Nord, tu te dis évidemment pas, oh, on va passer un très bon moment, boire des coups aux abords de la gare du Nord, c'est hyper sympa, les craquettes, les gens qui viennent te demander de l'argent, hyper bonne ambiance. On va prendre un coup de couteau amical, ça va être hyper sympa. Donc non, voilà, tous les Français savent qu'il faut éviter ces endroits pourris
Les Anglais
de Paris.
Pas
les Anglais le savent pas, et donc il faut évidemment les prévenir. Ensuite, moi qui ai vu quelques Anglais dans les rues de Lille au moment des matchs de rugby, etc., j'aimerais qu'on rajoute une chose dans ce guide, c'est attention, les bières sont plus fortes chez nous que chez vous. Parce que bien souvent, l'Anglais il est aussi complètement arraché. Le supporter de sport anglais, que ce soit pour le rugby ou le foot, il arrive il s'allume bien la gueule, ils boivent des seaux de bière bien fortes, plus fortes ici que chez eux, et donc après il est un peu ingérable. Donc je pense que Liverpool connaît aussi ses supporters et se dit, on va essayer d'éviter les problèmes, n'allez pas là, allez directement au stade. Et moi je note qu'on a aussi un enjeu avec nos supporters parisiens qui pourraient tomber sur des Anglais. Donc bon, finalement, ça fait mal au cœur en tant que Français de savoir qu'il y a des coins à Paris qu'on déconseille à des gens qui viennent nous visiter, mais c'est une bonne chose qu'on prépare tout ça et qu'on évite les problèmes.
Après, éviter la ligne 10... qui est celle qui amène Porte d'Auteuil et Porte de Saint-Cloud. Ouais. Je pense que ça, c'est plus un conseil de sagesse, effectivement.
Et peut-être tomber sur un Parisien du...
Si tu as des mecs de Liverpool, c'est triste qu'on soit obligé de réserver des lignes de métro. Oui, mais ça a toujours été, si tu veux, d'éviter de faire en sorte que les supporters se croisent.
Ils ne se croisent pas.
Voilà. Après, il y a deux choses. Il y a la sécurité. Il y a de la sécurité, et puis il y a ce qui relève ensuite de la rencontre fortuite entre groupes de supporters. Didier.
Moi, je trouve que c'est dommage où on est arrivé le foot avec ça, parce que c'est pas dans tous les sports que c'est comme ça. Et ça, on peut quand même le constater. Et après, derrière ça, à ce compte-là, ils organisent un cortège à pied qui part de la gare du Nord, qui descend au stade.
De Liverpool.
Voilà.
Bah oui, non, Liverpool
non,
à pied.
Ils les encadrent militairement, quoi. Enfin, quand les supporters parisiens quand les Parisiens vont jouer à Galatasaray ou en Turquie, en Grèce ou tout ça, ils sont en cortège, encadrés par les flics
ou à Marseille,
et puis ils se déplacent en cortège, voilà. Ils les prennent à la gare et ils les emmènent au stade en cortège avec des flics autour.
On déploie beaucoup de moyens, ça nous coûte une blinde aussi.
Mais oui, mais les problèmes n'arrivent pas. Enfin, là, il y a 3000 mecs de Liverpool, on n'est pas capable de les encadrer. encadrer, il faut leur donner des consignes comme quoi ils montent dans telle ligne de métro et pas dans celle-là. Enfin, moi, je trouve ça stupide. Je trouve que c'est d'abord et avant tout une défaillance de la sécurité parce que si vraiment on peut pas les faire se croiser, ces sauvages, eh ben, qu'on les mette en cortège avec des flics autour et puis on les fait marcher à pied sur la route.
Je pense qu'on a plus peur des sauvages qui sont chez nous, hein, vis-à-vis d'eux, hein, que d'eux.
Non, mais c'est plus un voyage, hein, c'est un escape game ou squid game, hein, on a l'impression, évite. Donc petit, tu dois passer par telle ligne, tu dois arriver à tel endroit, mais éviter cette zone où il y a des marécages. Je suis atterrée. Hein, Donc effectivement, Paris n'est pas le Paris d'Emiline Paris. Effectivement, on en est loin. Mais ce qui me navre, c'est qu'on rajoute de plus en plus. C'est-à-dire, on va éviter cette zone et puis cette zone et puis cette zone. Finalement, c'est tout Paris. Mmh. Ou alors, ils doivent juste aller du côté de Bercy Village.
Les no-go zones de Fox News.
Ou à côté, là, rue des Petits Carreaux pour aller boire du matcha. Sinon, on dirait que tout Paris est devenu la zone. Donc, on rit nerveusement en se disant, mais à quel moment on arrive à un moment où un match, donc du foot, normalement c'est une confrontation symbolique.
Normalement c'est un jeu. Il y a deux choses.
Confrontation symbolique. Normalement c'est fait le foot comme ça pour sublimer la violence. Ça veut dire on s'affronte symboliquement pour ne pas s'affronter aussi. Oui, il y a un peu ça. Et là finalement on arrive, on ne peut même pas prendre les mêmes métros ensemble.
Non mais il y a les histoires de supporters, il y a aussi les quartiers où la délinquance est installée.
Ah oui,
et voilà. Puis la drogue. Qu'est-ce qui est dit aux supporters?
Là,
c'est juste un conseil. En arrivant à Paris, vous allez arriver Gare du Nord. Voilà. Attention, on leur dit ne restez pas. Tu sais, il y a un truc. Tu sais quoi?
Oui, mais tu vois, je regardais.
Non, je posais la question.
C'est problématique
juste.
Pas pour les étrangers, mais même pour nous qui vivons à Paris. Ça veut dire un moment.
C'est ça.
Quand
Donc, c'est que le problème de sécurité n'est pas
réglé. Oui, mais moi, vous savez ce que j'en pense. C'est exactement la même chose quand on dit aux femmes évitez de porter un collier en or dans telle zone parce qu'il y a des voleurs. On responsabilise la victime alors que le problème.
On dit à la femme,
voleur,
mais pas une jupe trop courte.
Voilà, mais dans les deux cas, ça veut dire on demande au gâteau de pas être attrayant. Je vais pas péter la vitre si j'ai faim. Vous voyez, c'est pas une question
mais
de désir.
Mais parce qu'on n'a pas confiance en nos propres forces de sécurité pour faire
mais
la loi.
Vous voyez bien que ça va loin, parce qu'à un moment on va dire pour les femmes, faites attention de pas être attrayante. Je pense que la mamie qui a été agressée, là, il y a une mamie qui a été violée avec un bâton à Romainville. Je pense que elle est pas venue, elle était pas là en train d'être aguicheuse, la mamie. Donc on va arrêter. Le problème de la violence ne repose pas sur les victimes. Ouais, et là, malheureusement, ce dont nous parlons là, pour ce fait spécifique...
On n'a jamais dit que c'était le problème des victimes. C'est une population délinquante qui se trouve dans certains espaces.
Mais c'est la même chose que le 1% pour
le seul moment où la ville de Paris a été un lieu
JO.
Sûr, c'est effectivement les JO, puisqu'on avait un déploiement incroyable, même peut-être un peu exagéré, parce que tu avais des grappes de policiers un peu partout dans Paris qui attendaient, qui étaient là en faction.
Mais du coup, ça veut dire que quand on met les moyens, ça marche.
Et du coup, Paris, tu pouvais te balader à n'importe quelle heure, tout seul, tu risquais rien, tu prenais le métro, tu avais un monde dingue dans le métro pour t'indiquer quelle ligne il fallait prendre, etc., pour les étrangers.
Mais
et la seule fois où, effectivement, tu n'avais pas besoin de conseiller aux gens de ne pas aller là ou là, c'était pendant les JO.
Ça veut dire que quand on met les moyens, le problème de sécurité, il n'est pas...
C'est pour ça que je te dis qu'on
a besoin de moins d'enseignants et de policiers.
C'est notre insuffisance.
On a Pierre qui va intervenir dans les GG. Il est Clermont-Ferrand. Bonjour Pierre.
Le régalien.
Oui, bonjour tout le monde.
Qu'est-ce que vous pensez de ces conseils qui sont donnés aux supporters de Liverpool?
Moi, je pense que c'est nul. Déjà, il faudrait que l'accueil de supporters étrangers en France, il faudrait déjà que ça soit mieux organisé. Et surtout, moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Monsieur Darmanin, qui est maintenant encore et toujours au gouvernement,
ministre de la Justice,
et Madame Oudéa Castéra, donc on ne sait plus où elle est tellement elle est planquée maintenant. Et comme de toute façon, elle a été nulle comme ministre des Sports, j'aurais aimé qu'il s'excuse officiellement.
Darmanin l'a fait
auprès de la ville. Non, Darmanin, il a fait un mea culpa parce que c'est quelqu'un qui se remet jamais en question. J'aurais aimé qu'il fasse un communiqué officiel commun, qu'il vienne devant la presse, parce que Darmanin, il a bien été capable de venir devant la presse pour insulter un club et une ville, et un peuple, parce que moi j'y suis allé à Liverpool, j'ai vu comment ça s'est passé un jour de match, et les supporters, j'y étais justement en 2023, juste après la finale de la Ligue des Champions, c'était Real Madrid-Liverpool à Liverpool. C'est le jour où ils ont sorti la banderole, les supporters de Liverpool, avec le nom de Darmanin ou Oudéa Castéra, leur tête avec un grand nez et marqué menteur. sur ce qui s'était passé. Faut pas oublier que le club de Liverpool,
ça a été un mensonge.
Laissez-moi parler. Monsieur Darmanin, il a un manque de culture footballistique et de culture sportive. Faut pas oublier que les gens qui ont été écrasés contre les grilles au Stade de France, il y a des gens qui étaient à Hillsborough en 89 et qui ont vu des gens mourir. Donc, je ne renie pas que Liverpool, c'était eux qui ont foutu le bordel au Ezel, les supporters, mais ils ont été privés 50 Coupes d'Europe. Donc, c'est pas les mêmes. Je pense que c'est un club qui a souffert dans son âme, qui a souffert dans sa chair. Et d'accuser un club comme ils ont fait à l'époque et des supporters de ce qu'ils ont fait, c'est pas normal. Maintenant, de leur donner un guide pour leur dire faites gaffe parce que la dernière fois que vous êtes venu à Paris, vous vous êtes fait agresser et machin, c'est très facile de faire ça. C'est aucune remise en question de l'État. L'État, ils ont qu'à mobiliser des forces de police, dire au club de Liverpool, aux supporters, ils sont 2800, vous vous réunissez à tel endroit et on vous encadre. C'est ce qui s'est passé, moi, quand j'ai été à Liverpool, les supporters...
Les Parisiens, au match retour...
Monsieur Giraud, grand supporter de rugby, laissez-moi parler, s'il vous plaît.
Ah ouais, c'est bon, on vous a entendu, Pierre.
On
a
compris. Land. On peut mettre le tunnel aussi pour
on
les auditeurs.
On a compris que vous étiez allé à Liverpool, ça c'était mieux
passé. Mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que les supporters parisiens, quand ils vont arriver à Liverpool au match retour, ils seront encadrés. Ce que ça met en avant, ce truc-là, c'est l'incapacité à notre propre pays à organiser la sécurité autour de ça, c'est tout.
Mais après, c'est pas. Enfin,
le problème,
c'est pas Liverpool, c'est nous,
les supporters anglais. Si t'arrives à un problème Gare du Nord, ça sera de ta faute parce qu'on t'a dit de pas y aller. Voilà.
C'est une façon de se déresponsabiliser.
Si t'as pris la ligne 10,
après, je sais pas qui est à l'origine de ce message.
C'est le club de Liverpool.
C'est le club de Liverpool.
C'est le club de Liverpool.
Non, mais peut-être que les instances françaises ont communiqué auprès du club aussi.
Mais tu sais, justement,
c'est pas trop.
Je me suis dit, pourquoi est-ce qu'ils envoient à leurs supporters ce petit bréviaire, quoi, ces petits conseils? Tu sais, il suffit juste de taper sur Internet. T'es touriste demain, tu dis, tiens, je vais à Paris, j'arrive Gare du Nord. Tu tapes sur Internet. Est-ce que le quartier de la gare du Nord est tranquille?
Oh, il y a marqué, nice place to have a drink at Gare du Nord.
Pas vraiment. Le quartier de la gare du Nord n'est pas considéré comme tranquille. Pourquoi c'est agité? Pickpocket et arnaque. Beaucoup de passages, mendicité, précarité, déchets. Ça contribue au sentiment d'insécurité. La nuit, bon nombre de guides classent aujourd'hui la gare du Nord parmi les zones à éviter en soirée avec Barbès, Stalingrad, La Chapelle. Voilà.
Mais vous savez,
si tu veux, c'est pour tout touriste qui arrive à Gare du Nord, c'est devenu une notoriété.
Donc, le problème, c'est pas les supporters de Liverpool.
Donc, voilà,
c'est notre sécurité.
Les gars, si vous arrivez là-bas, attention, vous serez des cibles dans des quartiers qui craignent. Donc, c'était juste une question de sécurité publique. Exactement. Au-delà, mon cher Pierre,
donc c'est le problème du préfet de police de Paris.
Mais c'est pas, je ne sais pas vous, mais quand j'entends ça,
t'as 40 secondes.
Quand j'entends ça, c'est exactement comme lorsqu'on critique le président Macron. Moi, j'ai l'impression que la France, nous, on a le droit de la critiquer, mais effectivement, quand je lis quelque chose, ça me fait un peu mal. Quand quelqu'un d'extérieur critique
Macron.
Mais c'est
pas une critique du club de Liverpool, ils préviennent leurs supporters.
Oui, mais savoir que la France est
comme ça.
Ah ouais, ça me touche. Ça me touche parce que je me dis, c'est terrible.
On le sait.
Tu constates le déclassement de notre pays.
On a beau le savoir. On a beau le vivre, on a beau le voir.
On refuse de prendre
les mesures. Quand on voit qu'à l'étranger, ça se voit, ça nous fait quelque chose.
Et quand moi je dis, il faut expulser les délinquants clandestins, parce qu'il y en a un paquet autour de la gare du Nord, c'est un problème majeur. On me répond, Antoine, t'exagères. Donc tu vois, c'est le Français qui se mord la queue là.
C'est pas le.
Il voit le problème, mais il veut pas prendre les mesures.
À suivre dans les GG, dans les grandes gueules, notre invité Charles Alonc, c'est le rapporteur de la commission sur l'audiovisuel public. Est-ce que c'était un tribunal politique? Est-ce que cette commission a servi à quelque chose? Ou est-ce que c'était le cirque, comme l'a dit Xavier Niel? Charles Alonc, il est au cœur des critiques. Il a choisi les grandes gueules pour venir s'expliquer, alors qu'aujourd'hui, sa commission termine ses travaux aujourd'hui, en recevant d'ailleurs la présidente de France Télévisions. Restez avec les grandes gueules. Charles Alonc la suit en direct sur RMC et RMC Story.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.